Pair de voisins avec le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, bienvenue aujourd'hui. Faut qu'on se parle, je sais, c'est pas facile, on a tous une bouche, un cerveau, des cordes vocales. Bref, on a quand même tout le dispositif pour prononcer des mots, mais on n'arrive pas vraiment à communiquer. Et avec le développement des nouvelles technologies de communication, eh bien, ça ne va pas mieux. Alors qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le langage peut nous relier autant qu'il peut nous séparer? Comment éviter les malentendus? Faut-il tout dire? Et comment désamorcer les conflits? On en parle aujourd'hui avec la psychothérapeute Marie Anderson. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez votre 7e livre, hein. Vous aimez ça, hein. Traduire effectivement, transmettre tout ce que vous savez sur la communication. Ça s'appelle « Tout s'arrange avec des mots » chez Hugo et compagnie. Et vous êtes, donc votre nom Anderson, vous êtes une Belge mais exilée près de Toulouse. C'est le lieu que vous avez choisi pour vivre. Alors toutes vos questions, toutes vos peurs aussi, vos freins, ou comment vous avez su trouver les bons mots pour sortir de conflits, de mauvaises situations. On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. Alors on a beaucoup de messages, hein, qui arrivent sur Facebook. C'est sûr que la communication, c'est une grande importance, hein, comme le souligne Souni de N'Djamena. Elle nous donne des expressions, des dictons qui l'accrochent. Elle nous dit, par exemple, les mots sont des pistolets chargés. Il faut toujours aussi tourner 3 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Donc effectivement, elle attend beaucoup de cette émission. Il y a Sonia d'Athènes qui nous parle de l'évolution des nouvelles technologies de communication. Elle dit que les rapports sociaux sont plus nombreux, c'est vrai, plus faciles qu'avant, mais elle les trouve beaucoup plus fragiles. Nous avons aussi Fortuna d'Abidjan qui dit « Bon, on a maintenant les moyens de communication, mais on n'a pas le sens de la communication. » Alors, ça va être effectivement de trouver tous les moyens pour rétablir cette communication. Et il y a Christophe aussi de Bukavu qui rappelle « N'oubliez pas que la communication, ce n'est pas seulement le langage ou les textos, ça peut être aussi un regard, un sourire. » Et oui, on verra effectivement l'importance aussi du corps dans cette communication. On attend vos messages au 33 1 84 22 71 71. C'est Camille qui vous attend au standard et sur Facebook. Marie Anderson, est-ce qu'on peut dire que dans le monde hyper connecté dans lequel on se trouve aujourd'hui, on le connaît, on a nos écrans, nos Facebook, nos WhatsApp aussi pour s'appeler tout le temps à tout moment, est-ce que du coup on est dans le comble de la bonne communication?
C'est-à-dire qu'on a effectivement des moyens qui se sont développés et qui rendent notre vie très pratique au niveau transmission de petites informations. Ça permet d'organiser sa journée beaucoup mieux. Donc, il ne faut pas diaboliser ce type de nouvelle communication. Mais ça ne remplace pas, et ça grignote même beaucoup de place, ça ne remplace pas la communication de personne à personne dans les moments où il est nécessaire d'essayer de se comprendre, éviter une tension ou une dispute, se réconcilier, progresser ensemble au sein du couple, au sein de la famille, parfois dans des relations d'amitié également. Ce n'est pas à coup de petits textos qu'on va réussir à mieux se comprendre et à se rabibocher.
Alors on communique rapidement maintenant avec tous ces moyens, on nous demande d'être réactif, d'être dans l'urgence, il faut faire vite. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne sur le mode de communication?
Ça entraîne qu'on ne prend pas de recul. Hein, donc en fait, une pensée élaborée, une réflexion sur mais qu'est-ce qui se passe entre cette personne et moi, comment ça se fait que ça ne marche pas bien, comment est-ce que je peux améliorer, c'est une pensée élaborée qui demande de prendre du recul. On est dans la réactivité immédiate qui est adéquate pour des petites choses du genre, tiens, est-ce que tu as du temps, on se retrouve pour manger ensemble? Oui, ok. Mais pour régler une histoire de couple, par exemple, ça n'est pas par les SMS qu'on va y arriver. Du tout, du tout. Je reçois régulièrement en consultation des gens qui sont au bord de la rupture parce qu'ils ont essayé de régler leurs difficultés par SMS.
Mais il y a Carlos de Libreville, lui, il l'avoue, hein, il dit avec les nouvelles technologies, j'ai tendance à me lâcher via les réseaux sociaux, mes mails et au téléphone. Alors j'ai lu que cela s'appelle être textoverti. et par exemple, alors voilà, quand sa relation battait de l'aile, par exemple, avec sa copine ou quoi, et ben il envoyait un petit SMS et l'affaire était vite expédiée. C'est sûr, c'est moins spontané, mais lui, c'est le moyen qu'il a trouvé pour communiquer, même pour annoncer une rupture à sa copine.
Oui. Oui, il y a des gens qui draguent par SMS et qui rompent par SMS et rien ne sait véritablement travailler. Maintenir une relation en bon état, tout le monde le sait, c'est pas magique. Ça demande de passer du temps ensemble, d'essayer de comprendre l'univers de l'autre, de voir ce qui blesse, ce qui fait du bien. Ça demande du temps et de la parole.
Alors cette parole, elle est de plus en plus difficile à être vraie. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans ce monde rapide, d'urgence, où on doit être bon partout, on a du mal à trouver cette bonne parole. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprend pas forcément? Ça vient d'où?
Alors, il y a d'abord le fait qu'on a tous été des enfants et que pour survivre, quand on était tout petit, il fallait que notre maman, ou en tout cas les adultes qui s'occupaient de nous, nous comprennent, nous devinent, anticipent nos besoins, sinon on serait tous morts. Donc, on a tous commencé notre vie par se souvenir assez merveilleux d'être compris par l'autre. Mais ça, c'est une histoire de parents-enfants. Assez rapidement, on est dans la vie scolaire ou après professionnelle ou de couple, peu importe, avec les adultes. Énormément d'adultes gardent cette nostalgie d'être compris.
Mais et d'être compris sans rien dire, juste avec
rien
un
dire,
regard.
Voilà.
Juste avec un...
Ou en disant très peu, tu aurais quand même pu comprendre que... Ou je lui ai fait comprendre que... Oui, tu lui as fait comprendre, mais est-ce que tu lui as expliqué véritablement? Ou bien les choses qui nous obsèdent, on a un besoin vraiment qui est important dans notre vie, mais tout ça c'est à l'intérieur de nous, c'est pas affiché sur notre front.
Et donc même... en fait on communique trop avec des non-dits, on ne va pas au bout de la pensée, on explique pas assez clairement de quoi il s'agit.
Non, effectivement. Je crois que c'est une des premières leçons à retenir, c'est que si on a envie que l'autre nous comprenne, il faut que nous nous expliquions. Voilà, qu'on prenne le temps d'essayer d'expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on vise, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite.
Et ça, on ne l'apprend pas, en fait.
Non.
On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans la famille, on ne l'apprend pas avec ses parents.
Voilà, ça me désole, parce que beaucoup de choses ne fonctionnent pas bien dans nos relations interpersonnelles, tout simplement parce qu'on communique mal et qu'on n'a jamais appris. Effectivement, à l'école, on reçoit la parole du maître, enfin, en principe, voilà. Les parents, c'est pareil. Souvent, les parents disent « Oui, oui, moi, je parle beaucoup à mon enfant. » Je dis « Ok, vous parlez beaucoup, mais est-ce que vous l'écoutez ?» Ah, enfin, je lui dis comment il doit faire. Oui, mais est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous dialoguez? Donc, on ne prend pas suffisamment de temps pour apprendre à converser sur des choses sensibles.
Et c'est parce qu'on imagine que les autres, en fait, sont comme nous. En fait.
Oui,
on n'imagine pas que l'autre est différent, qu'il est dans un autre univers.
Exactement.
On projette totalement.
Voilà. Et que ce dont moi j'ai besoin, il va le comprendre. Et ce qui m'énerve, il va le comprendre. Et puis après, on est déçu parce qu'effectivement, il ne le comprend pas. Et alors au début d'une relation amoureuse, par exemple, on est un peu dans la fusion, donc on imagine et on le vit que l'autre comprend tout de nous, qu'on comprend tout de lui, c'est comme si on s'était toujours connu. Sauf qu'à un moment, on se rend compte quand même, l'autre est autre.
Mais souvent, justement, entre hommes et femmes, on n'est quand même pas sur la même planète.
c'est ce qu'on dit, mais vous savez, deux hommes qui vivent ensemble ou deux femmes qui vivent ensemble, même des copines en colocation, elles ne sont pas sur la même planète non plus. Donc c'est plus lié tout simplement à la différence des cultures et des origines qu'au fait qu'on soit un homme et une femme.
Alors les disputes dans le couple, justement, sont-elles preuve de passion ou au contraire une fatalité de l'amour? On en parle après Amoureux d'une époque, c'est Strange Enquête.
C'est comme un sport dans tes yeux ternes. Tu nous la sors quand le bar ferme. 10 ans après, t'en parles encore. À croire que t'aimes, t'envoyer toi-même dans les cordes. Plus t'en parles, plus dans le miroir, tu parles, le temps s'efface, tu reprends le match en flashback ralenti, elle se penche à ta portière, tu l'embrasses en buvant ta bière. Tu fermes les yeux, c'était presque hier, t'as beau être expert de l'exercice, tu t'y perds et on te ramasse à la sortie, à la petite cuillère. C'est comme se repasser la finale de 98, passer le premier but de Zidane, on connaît la suite et ça n'efface pas le fiasco en Afrique du Sud. On ne devrait jamais revenir sur des instants de grâce qui ne sont plus. On en ressort que plus déçu par ce qui se passe de suite avec l'équipe actuelle. Dis ça car tu te trompes sur elle. Ta nostalgie voit flou comme souvent la vie quand on la prend par le fond du verre. Et tu rêves qu'elle revienne alors que voilà déjà 10 piges qu'elle a quitté la ville. Comment veux-tu que ça arrive? Ce que tu cherches, ce que tu réclames n'est pas une autre tête en pleine lucarne, mais le joyeux vacarme que t'as pu faire et qui te traîne au fond du crâne. T'es pas amoureux d'elle. T'es amoureux d'une époque où c'était moi la merde, où t'avais des rêves en stock.
Et tu ne ressors la peste de tes souvenirs sur le comptoir du rat. Viré en caisse et rigolade sans les titres phares de cette playlist que tu nous récites à heure fixe. Et nous on finit pas connaître les paroles par cœur comme avec un single au hit parade. T'as le lecteur mémoire bloqué.
Les voisins, les voisines, s'il y a bien un endroit où les disputes empoisonnent, eh bien c'est dans le couple. Et c'est Rebecca donc qui nous appelle de Niamey qui veut témoigner. Bonjour Rebecca.
Bonjour Sandrine.
Merci d'avoir composé le 33 1 84 22 71 71. On vous écoute parler de la communication dans votre couple.
Ben de rien. Et bon, c'est juste un apport à tout ce que vous avez dit hein, déjà. Parce que le couple, bon, c'est la communication. Et il ne faut pas penser à la place de l'autre. Il ne faut pas dire que ah ouais, je savais, il sait. Et or non. Quand tu as un doute, bon, approche l'autre et tu lui dis, bon, en fait, je voulais que tu fasses ça. Et là, tu vas voir la réaction. En fait, c'est ça. J'avais donné un témoignage ce matin sur une petite dispute qui s'est passée dans notre couple. Et en fait, mon mari pensait qu'il m'avait parlé de quelque chose. Or non. Et il attendait que je réagisse. Et moi, je ne réagissais pas. Et du coup, lui, ça l'énervait parce qu'il se disait que, ben, mais pourquoi elle est là? Elle ne fout rien, elle ne dit rien, tout ça. Et après, là, moi, je vois que lui, il s'énerve pour rien. Et je lui dis, mais attends, pourquoi tu t'énerves? Il me dit, mais bon, la fois passée, je t'avais dit. J'ai dit non. Il dit, mais moi, je croyais que... J'ai dit non. Au moment où tu crois, au moment où tu as un doute, repose la question. Peut-être tu vas te répéter, mais... Au moins, tu seras sûre que tu as abordé le sujet.
Merci beaucoup, hein, Rebecca, pour votre témoignage de ces petits incidents, on va dire, dans la vie de couple, effectivement, où on n'arrive pas forcément à se comprendre. Lui, il pensait qu'elle savait. En fait, elle ne savait voilà. pas. Alors, tous des petits malentendus
voilà,
comme
c'est,
ça.
C'est une excellente illustration. Je suis ravie que Rebecca témoigne parce qu'elle dit ne pas penser à la place de l'autre. Alléluia. C'est absolument basique et c'est omniprésent. On imagine que l'autre a compris, on imagine que l'autre aime ça, on imagine qu'il va faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, etc. On imagine tout le temps. Cessons de penser à la place de l'autre et allons tout simplement à la recherche, au renseignement, j'ai envie de dire. Allons lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu as l'air déçu. Voilà, allez tout simplement s'informer.
Alors nous avons tout de suite Karine Danan en ligne. Bonjour Karine.
Bonjour.
Alors on est contente aussi de vous avoir en ligne parce que vous sortez tout juste un livre qui s'appelle « S'aimer sans se disputer, le secret des couples heureux ». Et oui, il y a un secret pour être heureux en couple, c'est chez Erol. Et vous êtes psychopraticienne formée à l'analyse transactionnelle. C'est quoi en deux mots? C'est un outil de communication, l'analyse transactionnelle?
Oui, c'est un outil de communication, c'est une méthode de psychothérapie. Voilà, donc ça permet de comprendre ce qui se passe dans la communication et puis de la rétablir pour qu'elle fonctionne mieux.
Alors, qu'est-ce qui revient le plus souvent justement comme raison dans les disputes de couple, Karine Danan?
Ben écoutez, j'ai écouté le début de l'émission je trouve très intéressant le fait de se recentrer sur soi et de se dire que l'autre ne sait pas, parce que l'autre ne sait pas ce qu'on pense et nous ne savons pas ce qu'il pense. Donc les raisons qui reviennent souvent, c'est de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, d'avoir l'impression que ceci ou que cela. On a beaucoup d'impressions sur ce que l'autre, sa réaction par rapport à nous.
Donc en fait, on projette beaucoup à partir de ce que nous, on a vécu, de notre propre histoire. On a du mal à imaginer l'autre comme quelqu'un de vraiment différent et d'aller effectivement à la pêche aux informations. Mais souvent, qu'est-ce qui se cache derrière les conflits dans le couple?
Alors souvent, il se passe la chose suivante, c'est qu'on essaye de reproduire les communications qu'on a eues. Donc on va imaginer que l'autre va réagir comme nos parents, comme les gens qu'on a connus. Donc on attend cette réaction en face et comme elle n'arrive pas, on projette, on se dit que l'autre va penser que.
Donc les disputes, en fait, ça révèle souvent les non-dits, en fait. C'est de là que viennent les disputes.
Oui, ça révèle les non-dits, ça révèle les modes de communication qu'on a eus.
Alors, quand vous analysez les disputes amoureuses, par exemple, qui minent...
On est en train de reproduire, quand on ne va pas poser la question à l'autre de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il réagit comme ça, on fait les questions et les réponses comme on l'a toujours fait.
Mais on connaît tous des couples, par exemple, qui effectivement se disputent sans arrêt, mais on a l'impression que c'est quand même ça qui les lie, c'est justement la dispute.
Parfois, oui, il y a des couples chez qui la dispute peut être un lien. C'est-à-dire, si on ne se dispute plus, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met à la place ? Effectivement, comment on instaure une vraie communication alors qu'on a l'habitude de fonctionner dans cette bataille, dans ce duel un peu permanent, qu'il faut bien le dire, des fois, rend les choses aussi un peu piquantes, un peu excitantes, un peu fatigantes aussi, Marie Anderson.
Oui, ce sont les couples ni avec toi, ni sans toi.
Ils n'arrivent pas à se séparer, ils n'arrivent pas à être ensemble.
Voilà. Ils sont dans cette tension permanente parce qu'ils veulent que l'autre soit différent de ce qu'il est. Donc ils exercent une pression permanente sur l'autre pour qu'il corresponde à nos envies, nos besoins. Et donc c'est épuisant, c'est esquintant, c'est vraiment, ouais.
Mais alors comment savoir, Karine Danan, par exemple, si une relation est trop conflictuelle ? À quel moment on peut se dire, là c'est trop conflictuel ?
C'est trop conflictuel, peut-être quand on ne le supporte plus, quand on n'a plus envie de ça. C'est la limite qu'on se fixe, se demander où elle est.
Et à partir de quand il faut arrêter, justement ?
Il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment en fonction de sa résistance, de ses ambitions, de ses ambitions de qualité relationnelle. Parce que ce qui fait qu'un couple fonctionne bien, Karine Danan doit certainement le savoir, c'est la qualité de la relation. Ce n'est pas nécessairement l'intensité du sentiment, ni la passion dévorante, mais c'est ce lien qui est de bonne qualité et qui satisfait les deux protagonistes. Et ça, ça se travaille, je veux dire. C'est quelque chose qui se travaille par le dialogue, par la conversation, par la proximité, par le temps partagé.
Karine Danan ?
Je pense que le lien ne doit pas devenir destructeur. S'il devient destructeur pour soi, pour l'autre, c'est peut-être le moment de se poser la question. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Pourquoi ?
Mais tout part, c'est ce qu'on entend dans vos deux livres, dans vos propos, c'est tout part. En fait, il faut d'abord se connaître soi et il faut apprendre à s'écouter soi-même. C'est un peu le début de la grande aventure.
C'est ça, se recentrer sur soi, ses besoins, ses envies, ses désirs, enfin, savoir ce dont on a besoin.
Il faut vraiment commencer par là, effectivement, ne pas être dans l'attente de l'autre, dans cette communication, mais savoir vraiment ce que nous, on ressent et ce qu'on veut vraiment, Marion.
Oui, commencer par là, et en même temps, c'est un processus qui n'est jamais fini. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il faut d'abord se connaître complètement avant de pouvoir entrer dans le lien, sinon on n'oserait jamais entrer dans la relation. Mais il est évident qu'il faut pouvoir, quand on a un conflit à résoudre, prendre un moment où on est seul avec soi-même et se dire finalement, mais qu'est-ce que je souhaite vraiment ? Quelle est la partie que je ne veux pas ? Quelle est la partie où j'ai de la souplesse ? Qu'est-ce que je vise ? Comment je vais m'y prendre pour essayer de restaurer une relation comme je voudrais qu'elle soit ? Donc ça, ce moment d'interrogation, ça demande du temps et ça demande peut-être de se couper de nos interventions SMS continues. Enfin, je veux dire, c'est un moment de repli sur soi qui est nécessaire.
Oui, un temps d'introspection et peut-être un temps aussi, ça peut aider de lire vos livres. Par exemple, Karine Danan, merci beaucoup à vous publier « S'aimer sans se disputer, le secret des couples heureux » chez Erol. Et vous êtes psychopraticienne. Merci pour avoir été avec nous en direct. C'est vrai qu'un livre, ça vous emmène bien par la main quand même. Ça vous permet de pointer effectivement où vous en êtes, quel chemin il vous reste encore à parcourir. Et vous restez avec nous, hein, Marie Anderson. Tout s'arrange avec des mots chez Hugo et compagnie. On ira aussi au Maroc dans la deuxième partie après le flash. Faire un tour du côté de la communication en entreprise, justement sur les différentes approches culturelles dans la manière de communiquer en entreprise. On attend vos questions. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Et sur Facebook, on vous livrera aussi les bonnes techniques pour mieux communiquer dans 3 minutes après le flash. Restez à l'écoute.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous les voisins, les voisines qui nous rejoignez. Tendez bien l'oreille. On apprend à mieux communiquer. Alors, on pense souvent que le conflit entre des personnes, par exemple, est une mauvaise chose. Mais non, on peut aussi partir de ces moments de crise pour faire bouger les lignes. Alors, quelles sont les grosses erreurs à ne pas faire quand on se dispute? Comment désamorcer les conflits et améliorer sa communication? Bref, tout connaître de l'art de la relation. Nous sommes aujourd'hui avec la psychothérapeute Marie Andersen. Tout s'arrange avec des mots. C'est votre 7e livre chez Hugo et compagnie. Et votre dernier ouvrage, c'est avant l'art de se gâcher la vie aussi, c'était un best-seller. Donc vous avez vraiment les deux casquettes. Hein. Vous recevez dans votre cabinet, vous exercez et en même temps vous aimez écrire des livres. Donc toutes vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook, dévoilez-vous. Au fond, à quoi servent les mots, Marie Andersen? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se taire, de parler moins?
Mais les mots, ça peut être futile, ça peut être destructeur, ça peut être méprisant, ça peut faire énormément de mal. Mais les mots, ça peut aussi redonner de la valeur à quelqu'un. Ça peut permettre de se comprendre, de se rapprocher. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de prendre ce moment de réflexion pour savoir ce que je vise, c'est vraiment important. Alors, c'est des choses que j'explique beaucoup plus dans mon livre. Par exemple, hors antenne, vous me parliez d'une petite méthode là, que j'appelle 0-1-2. Et en deux mots, je peux expliquer, c'est zéro attention à ce que je dis, c'est le stade où on papote, on parle librement, les mots sortent sans qu'on ait aucun filtre sur ce qu'on dit, c'est le stade le plus courant.
C'est quand même un stade qui permet d'être en lien avec les gens, parce que souvent on parle pour ne pas dire grand-chose, mais juste pour être là, présent, et pas être dans le silence qui fait un peu peur.
Voilà, c'est ça, on est en lien avec les gens, effectivement on est proche, mais ce n'est pas de la communication. Voilà. Après, le stade 1, c'est le stade où on porte son attention sur une personne, c'est soi-même. Ça, c'est le stade où on va apprendre à exprimer une pensée qui est quand même un tout petit peu travaillée. Donc, c'est ce moment où on va se dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Qu'est-ce que je pense? Où sont mes limites? Qu'est-ce que je souhaite? Voilà, ce moment où on s'enferme un peu avec soi-même et on fait le point sur ce qu'on veut dire. C'est indispensable si on veut évoluer dans une relation qui est un peu sous tension.
Je fais le point sur moi.
Voilà, exactement.
Je me recentre.
Voilà, je me recentre et j'assume ma responsabilité par rapport à ce que je vais dire. Parce que les mots, ce sont des actes. Ce sont des mots. Les mots peuvent faire mal comme ils peuvent faire du bien. Donc, on prend un moment pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment poser sur la table. Mais ça ne suffit pas puisque nous sommes deux. Et donc, il faut passer au stade 2 et se dire « Ah, je vais parler à cette personne-là. » Cette personne-là qui est très irritable ou très émotionnelle ou qui n'a pas beaucoup le temps ou qui est comme ci, comme ça, je la connais un peu. Donc, ma responsabilité, non seulement c'est de réfléchir à ce que je veux vraiment dire, mais aussi de trouver les mots pour que l'autre les entende et qu'ils soient digestes pour cette personne. Ça ne sert à rien de parler en chinois à quelqu'un qui ne comprend pas le chinois. Eh bien, sur le plan psychique, c'est pareil. Ça ne sert à rien de noyer l'autre sous des mots si c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour comprendre l'une ou l'autre chose. Si c'est quelqu'un qui est très irritable, il faut peut-être prendre une paire de gants supplémentaires parce que sinon on va droit à l'échec. Et c'est aussi ma responsabilité de poser les mots correctement pour que l'autre puisse les entendre.
Alors comment on va à la rencontre de l'autre? Vous nous donnerez aussi d'autres techniques après, Marie Andersen. Pour mieux communiquer, il y en a aussi qui rejoignent des thérapies de groupe. Et Charlie Dupio s'est immiscée justement dans un groupe de parole entre femmes. Elles sont qu'entre elles pour se parler. C'est un groupe qui a été fondé par une psychopraticienne qui s'appelle Géraldine Prévost-Gigant. Alors là, il est 19h. On est dans une salle tamisée du 17e arrondissement de Paris. Et il y a là une petite dizaine de femmes qui s'assoient en cercle, prêtes à se confier.
Alors bonsoir à toutes. Merci d'être venues pour notre dernier atelier groupe de parole pour les femmes avant cet été, pour que chacune ait vraiment l'espace pour s'exprimer, pour prendre la parole pour les 3 prochaines heures. Qui veut commencer cette soirée?
Bonjour, je m'appelle Sandrine, j'ai 48 ans. Alors initialement, j'avais un mal-être permanent, donc ça remonte à l'enfance. Mon père était très autoritaire. Pas de violence physique, on va dire, c'était plutôt psychologique. Mes avis n'étaient pas de toute façon intéressants, ma parole n'avait aucune valeur.
Donc votre père, quand vous parliez, vous disiez que ce n'était pas intéressant?
Il pouvait clairement le dire. ou alors ne pas écouter et complètement ignorer. Ce qui en fait a faussé toutes mes relations avec les hommes. J'ai emporté avec moi cette peur de l'autorité des hommes sur donc, la globalité des hommes. Je pouvais ne pas me respecter dans une relation, laisser l'homme prendre le dessus, puisque j'avais toujours connu ça. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal, que c'est l'homme qui a la parole et que ma parole n'a aucun intérêt, par exemple. J'ai rencontré des hommes très culpabilisants. Donc, bon, là, les paroles culpabilisantes du style « mais vraiment, tu me déçois beaucoup, je ne pensais pas que tu étais comme ça ». Tout ça parce que je n'avais pas répondu à une attente dans les relations sexuelles, par exemple. Ça fait quelques années que je participe au groupe de parole pour les femmes. Aujourd'hui, je sais poser les limites et dire ce que je ressens. Aujourd'hui, je peux dire. Quand tu me dis telle ou telle chose, ça me blesse, hein, sans aucune peur.
Vous êtes également participante de ce groupe de parole de femmes. Depuis combien de temps ?
Depuis 2 ans.
Parce que je ressentais une problématique de dépendance affective. Alors, c'était avec mes partenaires amoureux, quasiment uniquement. Rapidement, je me sentais vite abandonnée. Ça a pu me mener à des accès de colère qui étaient injustifiés par rapport à la situation, à des crises de jalousie. J'envoyais un message, j'avais envie tout de suite d'avoir une réponse. Et si j'avais pas une réponse, alors pas forcément quasi immédiate, mais en tout cas rapide, je sentais qu'il n'y avait pas d'intérêt pour moi, en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais vivre ça, je me sentirais harcelée. J'avais besoin d'être rassurée qu'en fait, toute la journée, je comptais pour quelqu'un. J'avais une tendance à facilement, effectivement, m'emporter. Alors oui, ça passait par des mots. Je haussais le ton de la voix, je pouvais dire des gros mots, j'en sais rien. J'ai pu dire « j'espère qu'un jour tu seras aussi malheureux que moi et que je serai pas là pour toi ». Des choses que je regrettais amèrement le lendemain ou quelques heures après. Je souhaitais en fait qu'il ressente ce que moi je ressentais, la douleur que je ressentais.
Alors aujourd'hui, quel progrès vous avez fait là-dessus ?
Déjà, je suis en couple avec quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute. J'arrive à prendre du recul à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut me contrarier. Je peux complètement attendre la fin de la journée. Je serais complètement capable de lui dire que je me suis sentie oubliée, sans s'énerver.
Vanessa Fattor, c'est vous qui animez ce groupe de parole entre femmes. En quoi ces groupes permettent d'aider à mieux communiquer ?
Ce qui se passe pendant les groupes de parole, c'est assez particulier, d'autant plus dans nos sociétés, où on est toujours en train de couper l'autre. C'est des groupes de parole et de thérapie. Donc les personnes viennent parce qu'elles ont des problèmes justement relationnels, de couple, de relations au travail. Ça va être souvent un problème de manque d'estime de soi. Donc ce qui va se jouer en groupe de parole, c'est comment elles entrent en relation avec l'autre. Qu'est-ce qu'elles mettent en place et qui ne convient pas dans la posture et les participantes peuvent faire un retour aussi à une personne en lui disant « bah écoute, là, j'ai l'impression que tu nous parles, mais en même temps, tu ne nous regardes pas. Est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu n'es pas avec nous ?» Déjà dans l'espace du groupe de parole. Et donc, elles vont pouvoir changer leur façon de communiquer.
Marie Andersen, ce qu'on entend effectivement dans ces groupes de parole de femmes, là, donc c'est sexué, hein, les femmes d'un côté, il y a des groupes de parole d'hommes aussi. Donc ça permet vraiment de faire le niveau 1 de la communication, donc c'est d'apprendre d'abord à se connaître soi-même, apprendre à s'écouter, voir ce que nous-mêmes on dégage, elle disait même, et d'en prendre conscience.
Oui, c'est le grand intérêt de ces groupes, c'est qu'il y a une protection par la présence des professionnels qui permet une sincérité qu'on n'a pas ailleurs. Et justement, de dire, par exemple, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit et c'est la troisième fois que j'observe ça, ou bien quand tu nous parles, tu es dans ta bulle, mais tu n'es pas en lien avec une personne en particulier, donc tu parles pour toi, mais tu ne parles pas pour l'autre. Ce sont des enseignements hyper importants. Et dans ce genre d'endroit, ça peut se dire sans que ce soit brutal, ça se dit avec bienveillance et ça nous permet de progresser énormément. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui parlent juste pour se dire, mais qui ne sont pas en lien avec l'autre. Or, les mots, ça sert aussi quand même à créer une communication.
Et alors justement, on apprend aussi à communiquer dans votre livre, Marie Andersen, tout s'arrange avec des mots, chez Hugo et compagnie. Par exemple, exemple, c'était évoqué dans ce, par une des témoins. Comment doit-on s'exprimer quand quelque chose nous heurte ou quoi ? C'était dit « je dis je ».
Ah oui, alors ça c'est vraiment, s'il y a une leçon à retenir de cette émission, c'est peut-être la principale, c'est de cesser de faire des reproches. Or, de nouveau, par notre origine enfantine, nous avons été tous des enfants. Quand nous allions mal, c'était souvent parce que notre environnement, décidé par les adultes, ne nous convenait pas. Donc, il était assez naturel qu'on puisse reprocher aux autres notre inconfort.
Parce que c'était imposé, ça nous était imposé.
Ça nous était imposé, on nous interdisait quelque chose, c'était normal, on était des enfants. Donc, ça a une origine très compréhensible. Mais aujourd'hui, faire des reproches, c'est attribuer les torts à l'autre. Et ça sous-entend qu'il est mauvais et que moi, je suis bonne et que j'ai raison. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre les problèmes. D'autant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Il y a simplement deux points de vue qui ne sont pas compatibles.
Mais c'est ce que j'ai lu dans votre livre. On pense toujours avoir raison, l'autre tort. Mais non, il y a deux versions de la même réalité. C'est
absolument.
Ça qu'il faut avoir.
Et puis, on a des sensibilités qui sont hiérarchiquement très différentes. On met d'autres, certaines choses en avant et l'autre pas, etc. Donc, comment faire pour supprimer les reproches qui, en fait, sont quand même très souvent blessants? C'est d'exprimer son besoin. En fait, ce n'est pas compliqué du tout. Au lieu de dire « tu rentres toujours trop tard et je suis débordée avec les enfants », c'est de dire, quand tu rentres à cette heure-là, je suis débordée avec les enfants. Et puis, on exprime son besoin. J'aimerais tellement que tu puisses arriver, disons, avant 6 heures pour pouvoir t'occuper des devoirs avec machin ou du bain avec truc. Enfin, voilà ce que les parents doivent faire. Ou bien, quand de dire à quelqu'un, t'es vraiment agressif. L'autre, il va très vite répondre, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, toi aussi, t'es agressif, mais c'est pas vrai.
Et alors, le ton monte.
Voilà. Ouais. Alors que de dire, par exemple, quand tu me parles avec ce ton de voix, je suis complètement perdue. Ça me rappelle mon père qui était autoritaire. Ou voilà, je me sens perdue quand tu me parles comme ça. Je t'écouterais tellement mieux si tu pouvais poser un peu ta voix et parler plus calmement. Voilà, c'est pas un reproche. C'est j'exprime mon besoin, j'exprime mon souhait, j'exprime, si vous voulez, je donne le mode d'emploi, je donne la direction vers laquelle je souhaiterais que ça aille, plutôt que de sanctionner le comportement. C'est très très efficace de donner la direction. Prenons encore un troisième exemple. Si je dis à mon enfant, ta chambre est un trou de cochon, tu es incapable de ranger tes affaires.
C'est une expression belge.
Enfin c'est une porcherie. Elle dit, voilà, c'est le bordel, pas possible. Mais voilà, range. C'est une critique très très forte qui ne donne pas envie à l'enfant de ranger ses affaires. Alors que quand
comment
on
il faut
dit,
dire,
par exemple, quand on dit, tu sais, moi, quand tu me laisses tout ça sur le dos, je suis fatiguée et c'est pas vraiment ma tâche. Ou quand on valorise les efforts qui ont commencé en disant, j'ai vu que tu as mis de l'ordre sur ton étagère, ben dit, c'est beaucoup plus lisible, on peut retrouver les choses, bravo, c'est bien. Donc en allant dans le sens qu'on souhaite, on est beaucoup plus efficace qu'en sanctionnant ce qui nous fait du tort.
Alors, les techniques pour mieux communiquer, eh bien, on verra ça aussi dans le monde de l'entreprise tout de suite après. Yes, we can, de Sacha Ensemble. Now's the time for all good men to get together with one another. We got to honor all our problems and quarrels and try to live as brothers. And try to find peace within without stepping on one another. And do respect the women of the world. Remember that you all had mothers. We got to make this land a better land than the world in which we live. And we got to help each man be a better man with the kindness that we give. Oh, I know we can make it. I know darn well we can work it out. Oh, yes, we can. No, we can. Yes, we can. Why can't we? To take care of all the children, the little children of the world, 'cause they're the strongest hope for the future, the little bitty boys and girls. We got to make this land a better land than the world in which we live. We gotta help each man be a better man with the kindness that we give. Yeah, I know we can make it. Thank you. mieux communiquer les voisins, les voisines dans la sphère de la famille, entre amis, dans son couple. Mais et il y a aussi l'entreprise. On y passe quand même beaucoup de temps, hein, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et les enjeux sont aussi très importants. Et on en parle tout de suite avec Jean-Yves Arrivé. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coach et consultant en ressources humaines. Vous êtes l'auteur aussi de Savoir vivre ses émotions aux éditions RETS. Et là, vous êtes depuis le Maroc en direct. Donc, vous travaillez aussi sur Rabat, c'est ça?
Absolument. Je suis en train de travailler à Rabat avec un groupe de cadres et précisément sur la question notamment de la communication. Alors, donc, on est en plein dans le sujet.
Bah oui, c'est ça qui est intéressant d'avoir le point de vue aussi multiculturel, hein, puisque c'est vrai que dans l'entreprise, les mots aussi hein, sont comme des armes, et qu'en plus, il y a des histoires de gros sous quand même derrière, puisque mieux communiquer, c'est aussi une meilleure productivité. Est-ce que tous les managers y passent aussi maintenant au Maroc?
Alors oui, on parle beaucoup de communication au Maroc, parce qu'on est effectivement... Dans la même logique en fait qu'on l'était en Europe il y a 10 ou 20 ans. Hein, on est sur des cycles. Simplement, on a une difficulté culturelle, comme vous l'avez dit, parce que il y a un certain nombre de tabous et qui sont peut-être un peu plus tombés en France. Par exemple, il y a énormément de difficultés ici à savoir dire non. On ne dit pas non à quelqu'un. Un manager ne dit pas non, un collaborateur ne dit jamais non à son hiérarchique. Alors là, le poids de la hiérarchie est encore beaucoup plus fort qu'il ne l'est à l'heure actuelle en France. Mais globalement, de toute façon, on ne dit pas non.
Alors, qu'est-ce qu'on dit?
Oui,
on dit oui et
oui,
on fait.
Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Alors après, il y a des intonations d'ailleurs dans le Inch'Allah. Alors, je travaille aussi en Tunisie, mais vraiment dans les pays du Maghreb, je m'aperçois qu'on ne me dit pas oui. Alors au début, c'est super parce que vous dites c'est formidable, tout ce que je propose, tout ce que... Et en fait, vous allez vite apprendre, parce que c'est le talent de chacun, à dire oui et à faire différemment.
Donc, pour le coup, les clés d'une bonne communication, donc là, vous faites comment? Alors, si on ne peut pas dire non parce que c'est culturel, du coup, qu'est-ce qu'on dit?
Alors, je leur apprends, et là, par rapport à ce que vous disiez avant, on est en cohérence, je leur apprends à faire du feedback. Déjà, à valider avec l'autre ce qu'ils ont compris de ce qui était demandé. Parce que le grand jeu consiste souvent à dire « j'ai pas fait parce que j'avais pas compris, en fait hein. ». C'est j'avais pas compris ou j'avais pas entendu ou etc. Donc on apprend déjà la notion du feedback, reformuler ce que j'ai entendu, réexpliquer ce que j'ai compris que tu attends de moi, etc. Ce qui est quelque chose qu'ils ne font pas du tout. C'est assez fascinant de voir, là j'ai un groupe de 15 cadres, il peut arriver à certains moments que j'ai 5 ou 6 conversations en parallèle pendant que je suis en train de parler. C'est-à-dire que ça ne gêne personne de parler en même temps que les autres.
Ça, c'est culturel aussi, c'est ça.
Oui,
c'est une sorte de brouhaha, une sorte de brouhaha ambiant dans lequel on se sent entre soi, quoi.
Absolument, absolument. Un petit peu, au fond, ce que me disaient les stagiaires aujourd'hui, c'est que depuis quelques années, ils souffraient beaucoup d'un changement culturel fort, notamment dans les villes. Ils avaient l'habitude d'une vie où on partait 2 heures déjeuner, où on se retrouvait en famille, puis on retournait à l'entreprise. Ils commencent à découvrir les difficultés de la journée continue, comme nous la connaissons bien, nous, depuis un certain nombre d'années. Et à l'entreprise, c'est un peu comme dans la famille. Chacun papote, chacun raconte sa petite histoire, les enfants parlent avec la maman, un autre avec le papa, les autres entre eux, etc. On a beaucoup de mal à poser un cadre et à le tenir.
Et donc, vous essayez de leur faire comprendre ça. Quels sont les enjeux, en fait, de cette communication?
Il y a un enjeu d'efficacité, c'est-à-dire qu'effectivement, ils subissent, je dirais, je crois que c'est le mot, une logique de globalisation au niveau professionnel. Ils sont nombreuses sont les entreprises qui sont dépendantes, qui sont sous-traitantes d'entreprises européennes, qui attendent donc des résultats et une rapidité d'exécution qui serait l'équivalent de ce qu'on attend en Europe. Donc là, l'enjeu, il est là. Si vous êtes filiale d'un grand groupe, vous pouvez difficilement, en tant que dirigeant du groupe, dire au patron français, vous aurez ça lundi, Inch'Allah. Le patron français, il attend ça lundi, point, à la première heure.
Mais la difficulté peut-être encore plus dans la communication en entreprise, c'est que si vous ne suivez pas ces nouvelles règles, je dirais, il y a peut-être la peur aussi d'être jugé, de perdre son emploi. Enfin, derrière, ça peut aller loin, non? Si on n'a pas les nouveaux codes de communication.
Il y a effectivement ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'ils sont en tension entre des valeurs culturelles encore très très fortes et des exigences de systèmes d'entreprise qui ne sont pas encore vraiment intégrés. C'est-à-dire, on est vraiment dans une période de transition, comme on a pu la connaître, je pense, dans les entreprises françaises dans les années 50 à 70. C'est-à-dire, au moment où on passait d'une France plutôt rurale à une France plus industrielle et ensuite une France tertiaire.
C'est comme s'il y avait un décalage, en fait, entre leur type, à eux, effectivement, de communication, ce qu'on attend d'eux en termes de communication. Ouais. Ils sont en transition, Marie Andersen.
Absolument.
Ouais. Oui, moi, il y a vraiment quelque chose que je retiens de ce que Jean-Yves vient de dire qui peut s'appliquer à nos histoires de couple et de famille, c'est vérifier la manière dont l'autre a compris les choses, donc l'inviter à reformuler. Au maximum, ce qu'on entend parfois ici, c'est « bon, tu as compris ce que je t'ai dit ?» Et l'autre va dire « oui ». Et en fait, on ne sait pas ce qu'il a compris, on ne sait pas ce qu'il a retenu, on ne sait pas ce qu'il a mis en avant, ce qu'il a laissé tomber. Donc, je trouve que c'est un principe très, très simple qui nous permet de progresser dans les difficultés relationnelles. C'est de dire, bon, voilà, on vient d'un peu se parler, s'écharper, se disputer ou essayer de se parler. Qu'est-ce que, finalement, tu retiens de ce qu'on s'est dit ?
Est-ce que ça rend la communication pas un peu artificielle ? On a l'impression qu'on est toujours en train de tout vérifier, de tout retranscrire, de tout reformuler.
Mais, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre papoter ou voilà deviser agréablement et essayer de progresser. Moi, en tant que psychologue, je reçois dans ma consultation des gens qui sont mal en point dans leurs histoires de vie et une des premières choses qu'ils doivent réapprendre, c'est essayer de se réinscrire dans une relation qui a une forme de vie, enfin, où on comprend ce que l'autre veut, l'autre comprend ce qu'on essaye d'expliquer, on réapprend à communiquer, où un parent arrive à retrouver le lien avec son adolescent. Vous savez très bien qu'une des paroles les plus fréquentes des ados, c'est de dire « tu comprends rien ». Mais d'accord, mais comment arriver à faire que le parent comprenne ce que l'ado a dans la tête ? Il faut d'abord se donner un petit peu de temps. Il faut que l'ado puisse peut-être déposer sa tablette et son smartphone pour réapprendre à avoir une pensée un tout petit peu élaborée, où il y a un début, un milieu, une fin, et où on comprend où il veut aboutir.
Alors cette idée de progrès, Jean-Yves, arrivé, donc vous le sentez aussi comme un besoin de la part de ces cadres marocains, par exemple, que vous avez en stage ?
Mais ce qu'ils ressentent bien maintenant, je crois qu'ils ont bien compris, c'est qu'il y a une différence entre informer et communiquer. Il y a souvent eu dans les entreprises, y compris en France, hein, une énorme erreur qui est de considérer que j'ai donné une information, donc j'ai communiqué. Or, c'est faux. L'information, c'est une condition nécessaire de la communication, mais ça n'est pas une condition suffisante. Communiquer, c'est m'assurer que le message que j'ai transmis à l'autre a pu être compris, décodé, qu'il a pu éventuellement revenir vers moi pour demander une information complémentaire et qu'ensuite, cette information, il se l'est appropriée pour en faire quelque chose à son tour. Or, beaucoup de managers sont contents parce qu'ils ont envoyé une note de service, une note d'information, et disent « Ah, j'ai bien communiqué ». Non, pas du tout.
Merci beaucoup, hein, Jean-Yves Arrivé. Merci, l'émission touche à sa fin. Vous êtes coach et consultant RH, donc auteur de « Savoir vivre ses émotions » aux éditions RETS. Et merci d'être avec nous depuis Rabat, au Maroc. Pour terminer, juste une petite question. Pourquoi, en fait, on dit souvent le contraire de ce qu'on pense, Marie Andersen ?
Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de la proximité émotionnelle, on a peur de se déshabiller émotionnellement, on a peur de montrer notre intimité psychique. Et donc, quand on a eu en plus une expérience de vie ou une enfance où on a été sujet de raillerie, de moquerie, etc., ou de mépris, on se protège en ne disant pas le cœur de ce qui nous, de notre âme en fait. Hein, on se protège, ouais.
Donc aller vers une plus grande vérité, oser dire qui on est.
Voilà, mais c'est l'époque où on se faisait moquer par les petits copains, c'est quand même fini. On est adulte, on peut avoir cette espèce de congruence, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de nous se manifeste à l'extérieur de nous et qu'on soit dans une forme de transparence assumée, où on ne cherche pas à se cacher, à se protéger à tout moment.
Et je vais finir avec Socrate. Il a trois passoires, Socrate. Juste avant de savoir justement s'il faut parler, alors il faut vérifier pour terminer.
C'est une petite historiette qui dit que Socrate invite à passer ce qu'on va dire dans les passoires de 1. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu l'as vérifié ? 2. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça crée des bonnes choses ? Et 3. Est-ce que c'est utile ? Alors, ce sont des passoires qui permettent de faire un filtre et quand on essaye de les appliquer, on se rend compte que finalement, on dit beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait vraies, pas tout à fait bonnes et pas tout à fait utiles. Cela dit, on peut soi-même s'inventer nos passoires.
Merci beaucoup, Marie. Marie Anderson, et un peu de silence aussi, ça fait pas de mal. Vous écrivez « Tout s'arrange avec des mots » chez Hugo et compagnie. C'est votre dernier ouvrage, très bon ouvrage pour essayer de faire un pas vers une meilleure communication. Merci à toute l'équipe et demain, ce sera « Accueillir des jumeaux ». Et oui, d'un coup, la famille s'élargit plus que prévu. Comment s'organiser ? On attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook. À demain, portez-vous bien.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO. RFI.